Donc, développons la bodhicitta, pensant que nous sommes venus ici avec un seul et unique but en tête, celui de pouvoir, à travers l'écoute de cet enseignement, d'être à même, c'est-à-dire d'acquérir la capacité d'établir l'ensemble de tous les êtres qui remplissent l'espace, qui sont nos propres mères, en l'état de Bouddha, insurpassable, ultime et parfait.
Donc, on enseigne à partir des chapitres des 100 000 chants de Milarepa. Au moment où Rishungpa, un de ses disciples principaux, revient de l'Inde, qu'ils se rencontrent. Et là, on est arrivé au moment où Milarepa demande à Rishungpa de montrer aux autres disciples qui sont réunis hein, pour une fête rituelle la manière dont on peut retourner une discussion, ou vaincre en quelque sorte une polémique par des arguments. Rishungpa a chanté ce qu'il faut pour, ce qu'il faut posséder pour pouvoir être à même de, en quelque sorte, repousser la polémique ou défaire les arguments de l'adversaire. Et Milarepa, là, il chante à sa suite. Ça, certes, c'est pas mal, mais
il y a mieux.
Il va introduire des éléments peut-être qui manquaient, ou certaines, il va pointer certaines lacunes.
Gomba chopa tebu ata de nam ba shin na ne ta wa la gomba khande ge che jin ba ne ne gombe ka la khare ge chin ba ne chobe ka la khande ge chin ba ne ne jebe ka la khare ge chin o de che ba ne shi ta de ke ko de ba ne.
En fait, Milarepa lui répond donc ça c'est très bien, c'est une très bonne façon que tu as de repousser un peu la controverse. Mais ce qui est important, ce sur quoi il faut que tu insistes, c'est l'importance cruciale de la vue, de la méditation, du comportement et du fruit, du résultat. Et donc ces quatre points sont essentiels. Et là, il chante.
Oui,
Tambo, Tambo, Sem Ginan là.
Tambo, on a eu que Sem De.
Tambo qui Sem De.
Pendant un que Sem De, les objets qui a cher.
Ra.
Oh, d'accord, qu'est-ce que tu as mon élève cher? Oh,
c'est ça.
Oh, t'as de la chou la grille, mais la grille, c'est de Baba la grille, à mon dame, on a connu Chou Chara, mon va.
Sem De, là.
Sem De, non, c'est à mon de Chou Chara.
Namto, là.
Oh, Chou Chara. Oh, de mon gueule, Tambo, on a eu que Sem De, Korangan là.
Tambo, Lana. Sablo Nguyen là.
Tambo,
Alors, la vue, d'abord il présente la vue, mais il n'arrête pas. Donc la vue, c'est un peu classique dans le jargon, hein, on ne sait même plus trop ce que... C'est-à-dire, c'est la sagesse vide ou la sagesse vacuité. Bon, ok, ceci dit, la vue est certes la sagesse vacuité, ou on peut dire la conscience principielle vide, ou inversement, hein, le vide de sagesse primordiale, parce que c'est indifférent, enfin, il n'y a pas de sens. En tout cas, c'est ces deux mots à coller, à poser l'un à côté de l'autre, vide et sagesse, yéché. Mais, alors, premièrement, ça veut dire quoi? Il y a une première couche, on peut dire, pour expliquer, c'est de connaître ce qu'il en est réellement de l'esprit, de connaître ce qu'est l'esprit en soi, son mode de subsistance, son mode d'être. Ça, pour le reste, c'est la vue. Cette connaissance de ce qu'est l'esprit réellement est la vue. Et ensuite, il y a... Gabola a introduit le terme de tambo, c'est en premier ou d'abord. Donc, ce qu'est l'esprit, d'abord. Alors, je disais d'abord quoi? En premier de quoi? Avant ou d'abord, en quelque sorte, avant, entre guillemets, de se livrer à toutes sortes de proliférations discursives, de jugements, avant même que naissent les préconcepts, les notions ou les considérations, avant que l'esprit se dirige par-ci ou par-là, et qu'il se dise, bien avant qu'il se dise, ça c'est une table, ça c'est du feu, ça c'est chaud, ça c'est froid, ça c'est agréable, désagréable, ça c'est rouge, vert, bleu, etc. Avant cela même, avant qu'il se mette en mouvement, et qu'il fasse toutes sortes d'opérations cognitives, hein, avant qu'il y ait ces genres de facteurs mentaux qui opèrent, c'est ça, tempo, avant ça, en quelque sorte. En premier, ce que l'esprit est en premier, à part ça. Voilà, c'est ça, à part ça. À part toutes ces opérations cognitives, subtiles, grossières, peu importe. Eh bien, à part ça, l'esprit, il est ce qu'il est. Sans attribut. Et ça, c'est appelé yéché dans le jargon, c'est sagesse primordiale. En fait, yéché, ça veut dire yéné, c'est depuis toujours, primordialement, on pourrait dire, ou ça n'a jamais été rien d'autre que ça, yéné, depuis toujours. Et ché, c'est connaître. Et donc, on peut dire depuis toujours, avant même qu'il y ait toutes sortes de proliférations discursives, d'opérations cognitives, etc., bien avant qu'il y ait les concepts, voire les préconcepts, les notions, les considérations, il y a la conscience. Voilà. Ça, on le fait de connaître. Et dès lors qu'on connaît ça, on connaît l'esprit. Et lorsqu'on connaît l'esprit, et on voit qu'il n'est pas appréhendable, inassignable, donc il a un caractère insaisissable, donc vide. C'est ça la vue. Donc de connaître cet esprit-là, cette conscience-là, en quelque sorte principielle, au principe même de du fait d'être conscient, c'est la vue.
Ani, ta gumba osa zime isin. Ta gumba isin kala var isin. Nasıl gum geldi doğa? Gumba ile doğa. Gumba de ngo de kandı zile ngo zin var sana sanki. Sen de salbo yapacak var sana sanki gumba de gelen var. Sen de ti yok doğa doğa, tene mesa doğa, tene çek. Chama me kyo dawo, teni mayin bache san de pe sabo, pe chungbo, chungbo.
Chungbo.
Ode gore esi rwa. Ina ya, ane deno la ta, sam de sabo yewe kala, sam de namdo dhamma da shegi rwa. Ane deso le nan zimba me bache gore esi.
Ah, di. Voilà pour la vue. La méditation. La méditation, on dit, est claire lumière sans saisie. En tibétain, le mot tamo, c'est claire lumière non saisie. Ou non saisir. Absence de saisie. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut méditer. C'est ça. C'est-à-dire que il faut savoir dans quel état on est, donc avoir cette lucidité, savoir si l'esprit est dans la torpeur, en train de sombrer dans un genre d'état apathique, une absence de pensée, confortable mais lourde, ou bien si l'esprit est plutôt dans les pensées discursives, dans quel état on est. Cette introspection, hein, cette connaissance de l'état de l'esprit, en temps réel, fait que l'esprit est vif, il est clair, il est aiguisé. Il sait exactement ce qui se passe, entre guillemets, en son sein, en lui-même. Voilà, donc c'est ça. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Connaître quoi, savoir, être vif, être au courant de... Hein? Okay. Mais dans cet état... ça favorise quand même l'émergence de fabrication discursive, de pensée. Hein? Fabrication mentale. Toutes sortes de pensées peuvent émerger beaucoup plus facilement comme ça. Eh bien, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Qu'elles émergent, ces pensées, on ne les saisira pas. Et c'est exactement ça, c'est ça. La claire lumière sans saisie, c'est ça. La claire lumière, c'est l'aspect vif, aiguisé de l'esprit, réveillé, quoi. C'est ce qui se passe, au courant. Et sans saisie. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Donc c'est exactement, quasiment point pour point, la manière de conduire une voiture sur une route. On conduit une voiture, on a une destination, on a quelque part où aller. Et sur la route, évidemment, il y a le paysage. Si on est sur une route de campagne, imaginons, ben, il y a toutes sortes de choses. Hein, toutes sortes de choses. D'autres voitures, des gens, des maisons, des arbres, des paysages, des champs, des forêts, etc. Mais on va pas effacer le paysage. On va pas se mettre dans un tunnel pour pouvoir bien conduire. Non, on conduit au sein même du paysage. Mais le paysage ne dérange pas. Pourquoi il dérange pas? Parce qu'on ne saisit pas. On reste concentré sur la route. Parce qu'il faut avancer. Il faut avancer. Et la méditation, c'est exactement ça. Pas besoin d'effacer le paysage, les pensées, etc. Mais elles nous dérangent pas. Elles sont là. Elles font partie du paysage. On les saisit pas. On va pas s'arrêter. Et on continue à méditer. L'esprit vif, clair. Et c'est exactement ça. Ça veut dire on ne saisit pas les pensées qui émergent. Et c'est ça la méditation.
Pongse. chakwabi bagore lara. Ene yama doa ena ta nga zolumba ta amata khyamdo ena aaa ta lomba de kibo to ta de nga la togo to ta nga de pe yabo to se oo dende chigo mara e lara. Chidang ko doa gore, sa gore, thong gore, gaza miyo to doa keze she gore. Ene keza shi gore songdo. Mosa tamo nama bo kuna chupar giro ena tela chapa pangwa sha ase. Mosa rige temo tamana mambo. Nga zo doa gore se kanya mara selwa. Ina dila chapa chigo mara e lara. Chapa mazen kyon kanya mara lara, oo dende chapa me gyunshik inse, gyunshik zen, tur gyundo. Chapa de jik tupa jikwa resen, mua bache tupa jikwa resen.
Chapa
jik tupa.
Jik tupa.
Gyunshik inse ba.
Maza. Jik tupa, shigure ba. Kande chapa
shi... Jik tupa, tada jenba chigwa mara lara, aaa tada ya bodo sene, gado ina ra.
Maza. Jenba. Quand est-ce que j'aime pas, quand est-ce que j'aime pas, j'ai mes parts de gré.
Oh, t'as dit là, ah, t'as dit, ah, quoi, ça va de meva, c'est quoi là.
Mais pas un an de tawa de...
Zimba meva,
dit.
T'as dit, quoi, t'as dit, quoi, t'as dit, quoi, t'as dit, quoi, t'as dit,
quoi. Ah, dit, toi. T'as la peine tangora. T'as
dit, bêche tangora.
Là, t'as dit,
oui. Yus, c'est quoi, yus.
Là, ah, tu t'entends. Yus. Alors, maintenant, c'est le comportement. Donc, le comportement, il dit que le comportement est continu et en totale absence d'attachement, de tout attachement. Et donc, on ne peut se comporter que de quatre manières. Soit on va, charpa, alors, soit on agit pour le corps. Soit on s'allonge, on dort, soit on reste, littéralement, on reste, on est assis, on reste là, quoi. Donc aller, c'est aller, hein, marcher. Alors, l'autre là, tchark, c'est, en fait, c'est se laver, aller aux toilettes, manger, parler avec les gens, etc. Tout ça. Et s'allonger, enfin, c'est dormir, c'est dormir. Et rester assis, c'est rester assis. Ok. Et donc, quel que soit donc, le comportement, on dit qu'il y a quatre types de comportements, ces quatre types précédemment cités. Quel que soit le type de comportement qu'on adopte ou qu'on doit effectuer, il faut qu'il soit sans attachement. C'est ça le comportement. Le comportement avec un C majuscule, après la méditation. Et donc, ce qui veut dire, bon, on connaît bien ça, par exemple, si, c'est ne pas être devant un plat et dire « Ah, c'est bon !» Ah, qu'est-ce que c'est bon! Ah, c'est meilleur dans ce restaurant que dans un autre! Ah, c'est bon! Ah, c'est super bon! Voilà, ça c'est de l'attachement. Donc, face à ça, jeter à la poubelle, il faut s'en débarrasser, pas d'attachement. Et l'inverse, pareil. Ah, c'est pas bon! Ah, c'est moins bon dans ce restaurant! Ah, c'est moins bon là que. Ça c'est également de l'attachement. Pongsem, c'est l'esprit de rejet. On n'a pas envie de renouveler l'expérience ou ça ne nous plaît pas. Ça c'est un attachement. Hein? On est attaché au fait de rejeter, de ne pas expérimenter à nouveau cette expérience sensorielle. Donc c'est un attachement, et donc ça, il faut rejeter, l'un comme l'autre. Donc par exemple, ça c'est par exemple avec la nourriture, c'est pareil pour tout, par exemple, d'aller dans un endroit, dire « Ah, oh, c'est un endroit extraordinaire, magnifique, c'est un endroit, oh, c'est féerique, quoi, c'est merveilleux, extraordinaire, magnifique. » Ça, c'est de l'attachement. Donc En français, est-ce que ça marche? On se fiche de... Non, enfin, faut rejeter l'attachement. Je ne sais pas si c'est... faut rejeter l'attachement. C'est-à-dire que le paysage peut être aussi extraordinaire qu'on veut, le pays peut être magnifique. Ce n'est pas notre problème. On n'a pas d'attachement. On doit de toute manière aller faire ce dont le corps a besoin, dormir ou rester, point. Sans être influencé, sans même apprécier ou déprécier quoi que ce soit.
On s'en fiche, tu peux dire.
Ouais, mais on s'en fiche, ça veut dire qu'ici, il y a l'indifférence. Ici, il n'y a pas d'histoire d'indifférence. Hein, ici. C'est qu'il y a l'attachement. Il n'y a pas d'indifférence. S'il y a l'attachement, on rejette l'attachement. C'est ça. Ah oui, voilà. Et donc, ce qu'a dit Shantideva, c'est exactement ça. C'est que quelle que soit la magnificence de l'endroit qu'on doit traverser, que ce soit un endroit, alors entendons-nous bien, hein, l'endroit c'est pas seulement un paysage, évidemment c'est un paysage, c'est quelle que soit la magnificence de l'expérience qui nous est donnée de traverser, l'expérience sensorielle, gustative, olfactive, hein, peu importe, quel que soit le caractère extraordinaire de l'endroit, entre guillemets, de l'expérience qu'on doit traverser, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'attachement à en développer. Donc ça, c'est subtil, c'est pas seulement rejeter l'attachement, c'est comprendre qu'il y a un attachement et ne pas le développer. Et si jamais on traverse cet endroit, on traverse cette expérience sensorielle sans absolument aucun attachement, qu'on a défini tout à l'heure comme acceptation ou rejet, hein, les deux, c'est de l'attachement, alors il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Il ne peut pas y avoir de faute dans le comportement du bodhisattva. Et donc il faut détruire l'attachement. Donc c'est pas seulement on s'en fiche, c'est pas seulement de l'indifférence. Il y a de l'attachement qui est produit, il faut le détruire. Il disait comment alors, c'est ma question. Comment le détruire, comment on fait pour détruire? On va dire, on lui tape sur la tête, il faut détruire l'attachement. Il ne faut pas suivre. Il faut se voir suivre le truc, aimer, apprécier, et ne pas le faire. Ne pas suivre. Je disais, mais comment ne pas suivre? Et il dit, ben, faut la vue. Ah là, c'est la réponse que j'attendais. Faut la vue. Faut utiliser la vue. Use, hein, en anglais. La vue, c'est l'outil. C'est l'outil qui nous permettra de détruire l'attachement. On ne va pas le détruire à main nue comme ça, non. C'est la vue. C'est par la vue que l'attachement est éliminé.
Oui,
Ani chelwa kari chelbu. Chelbu lamna di.
Tu tolo chame ke.
Tu lo me pa. Nam tok me pa dao.
Ode ne sem de chelbu sem chelbu tong gore la.
Sem korong korong ba.
Os korong de tsang ma chawal ga.
A tsang ma di ke.
Mas tu lo ga na zu ko chelbu ma ra.
Zero.
Tu lo sam pe shan chelbu chelbu ma le da. Ode ne.
Sem korong korong.
Sem gi nam tok sam pe ba tu ba je gore la. Ode ne ani chelbu tong gore es.
Là ça. Et enfin, le fruit, dites-vous, le résultat, on dit que le résultat est sans souillure, hein, dis-moi mais pas, et nu. Alors, sans souillure, c'est simple, les souillures de l'esprit sont ses considérations, ses idées fictives, ses opinions, voilà, donc ses points de vue, voilà, c'est ça les souillures de l'esprit, qui débouchent à terme sur des émotions perturbatrices, beaucoup plus grossières, comme le désir, l'attachement, la colère, l'aversion, l'orgueil, la jalousie, etc. Et donc, ça, ce sont les souillures de l'esprit. Dès lors que l'esprit est libre de tout ça, là, idées fictives, émotions perturbatrices, toutes les distorsions, il est propre. Il est propre, il est dit immaculé, sans souillure. Donc c'est cette idée de l'esprit immaculé, l'esprit tel qu'il est, voilà, sans saleté, sans souillure. Ça c'est le fruit, c'est en fait l'atteinte de la bouddhéité. Dès lors que l'esprit n'a plus aucune trace d'émotion perturbatrice, c'est un aspect de la bouddhéité. L'autre aspect c'est que l'esprit est nu. Alors, nu, ça veut dire qu'il ne revêt pas les habits des pensées discursives, des fabrications mentales. Les fabrications mentales ne recouvrent pas. Comme par exemple, le corps, il n'est pas nu, ça veut dire qu'il est recouvert de vêtements, et quand il est nu, il est dévêtu. Et donc l'esprit est nu, il est tel quel, il est nu. L'esprit lui-même, sans rien qui ne le recouvre. Et ça, c'est le deuxième aspect de la bouddhéité. L'esprit est sans pensée discursive, sans émotion, puis sans pensée discursive. Donc les deux voiles. Et ça, c'est le fruit.
Donc ensuite on revient. Récapitulons. Alors, ça c'est dans un chant, hein. Faut comprendre que c'est versifié, c'est chanté, c'est des vers, c'est très joli. Mais donc récapitulons. Donc la vue qui est, comme on avait dit, la sagesse primordiale vide, hein, à peu près. Donc cette vacuité, cette sagesse vacuité, sagesse vide. Ça suffit pas de, premièrement, simplement d'avoir une compréhension. Ça, on peut comprendre, ça suffit pas. Ça suffit pas non plus de simplement avoir été introduit à cette vue. Ça suffit aucunement qu'on nous l'ait présenté, même si c'est présent, la présentation était parfaite. La confrontation avec cette vue peut ne servir à rien, parce qu'il y a toujours le danger que ça ne reste qu'au niveau des mots, pour soi. Et donc là on tombe en quelque sorte, on s'égare, on se perd dans les mots, on a raté le coche. On a compris les mots, et ça en reste là. Et donc après, on est capable d'expliquer très en détail ce qu'il en est de la vacuité d'existence propre de tous les phénomènes. Et là, on se perd en vaines paroles. Donc là, c'est le danger. Donc pas besoin d'en parler. Une fois qu'on a reçu l'introduction, la présentation, une fois qu'on a compris tout simplement que la compréhension est aboutie, il faut l'intégrer à l'esprit. Parce que c'est pas avec les mots qu'on arrive à une réalisation quelconque. Les mots ne sont pas la réalisation. Il faut faire naître cet esprit ferme, on dirait, trempé, comme dans caractère trempé, un caractère bien trempé, c'est ça. L'esprit trempé en quelque sorte, ferme, comme l'acier, extrêmement solide, robuste, résistant à tout, en quelque sorte. C'est cette expérience décisive, c'est cette certitude définitive.
qu'il faut faire naître dans l'esprit, et rien d'autre. Et donc, on voit que ça n'a rien à voir avec les mots. Ça, c'est une certitude qui naît dans l'esprit. Et donc, tant que cette certitude décisive, définitive, trempée, ferme, irrévocable, et n'est pas née dans l'esprit, il y a toujours le risque, quoi. Le risque de se perdre avec des mots. Le risque de dire oui, c'est vide, ok, c'est vide, d'accord, bon, on a compris, c'est vide. Hein, le comment ça s'appelle, dans le sutra du cœur. Ou alors, c'est ça, c'est plus subtil, c'est que où il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, dans le sutra du cœur, on dit il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'oreille, pas de nez, pas de langue, pas de toucher. Hein. Il y a voilà, aucune sensation, aucune perception, aucune conscience, etc. Et donc, il y a le risque de répéter ça. De le répéter, on l'a compris, on le répète, mais l'esprit n'est pas arrivé à cette certitude irrévocable, définitive, certaine. Cet esprit trempé n'est pas arrivé à là. Et donc ça n'aide pas. On risque de se perdre, de s'égarer, de perdre justement cette introduction, de perdre le sens de la vacuité. Et donc, ça, c'est pas avec les mots qu'on détruit la saisie du soi. C'est pas avec les mots qu'on détruit l'attachement au soi. Le fait de se prendre pour soi-même ne peut pas être éliminé simplement par les mots. Et quelle que soit la méditation que l'on adopte, le Mahamudra, le grand saut, le Dzogchen, la grande perfection, le Madhyamika, la voie et le fruit, peu importe la voie qu'on emprunte, elle ne sert qu'à une seule chose, c'est à détruire la saisie du soi. Et les mots, si on en reste aux mots, on n'arrive pas au fruit. On n'arrive pas. On n'arrive pas même à intégrer la vue. N'est-ce pas ? Et donc, c'est pas par les mots, c'est pas par la compréhension simplement intellectuelle, en quelque sorte. C'est que l'esprit, il doit en avoir une certitude directe. C'est non discursif, c'est certain, c'est ferme, c'est irrévocable. On dit « Thakpo ». « Thakpo », normalement, c'est très violent. C'est très violent. Donc, on doit avoir cette violence dans la certitude. On doit trancher tous les doutes fermement. N'est-ce pas ? Et donc, tant qu'on n'est pas arrivé à cette violence dans la certitude, comme a fait le geste qu'a fait Kimpola, on a réalisé. La vue, c'est comme ça. L'esprit est comme ça. Voilà l'esprit. Définitivement. On va dire en quelque sorte, on peut utiliser voilà, extrême. Extrémiste un peu, violent comme ça. Voilà, c'est ça. Il faut arriver à ça. Quant à la vue. Et là, on peut détruire la saisie du soi. On peut enfin cesser de se prendre pour soi-même. Avec les mots, ça ne marche pas.
Osa zime zekande ata napa kyangba la shirai nga tu napa sem de chi po chi na khaja je tane sem tse je do ku chu do chi ni sem ji de ne ima shi ga za ha de da chi ha ma ga na sem de ne de giro am ma de napa kyangba na gire sra wa de la shirai ni nga re sra wa ona khar je wa za sem ne be ga na ani e she de na ma shar tu ba che go re sen
ne she
e she sem gi semgi da je sala shi dwa odin na shart pa che bare esen kazi de shar matun na kyon karza na pa ten kyan sa sem se ji du pa na chi chu zo ching ni sem ji ni ma che ka ro ni ma chi do de tu ba na kure du ma lo dol tu ki ma re sen ala su ni mo ba sen pa ni ma re sen do cha me sen ha tene de sem ma ne ba la chingo la e she mi ki ba sen ta sem chingo la sona yana sem nāngā shīn sōnā rā, kuya sōnā tēnā eṣi tē tāna kēgī mā rē sēm. Tēnā māyīng tāma shē, sō tēngā sō sēm tēlā, kadu yīnā tē sēm, nē bā yīnā rā, ēngō yīnā, kā yīnā tēlā, sēm tē ēng mā shī kua tēmbā tē bē, gyā chīm bē mā rē sēm, gōm gyā tō ngā sō tēmbā tē bē, yāng yāng, dzīng gō rē sēm. Tēmbā ēng mē mā shē nā, lōngā tāp tāp kī kā nā mē, tēmbā māyīng bā shē gō rē, lā kā gōm gyā tē rā, ā tē bē, gyā chīm bē yīn sēm bā rē.
Denba dans Namtor, tu parles carré dédié. Denba dans Namtor.
Namtor, là,
Nenantorchik, Nenantorchik dit Zin Zina Denba donc tu parles bien.
Yul jana sem sem ko ani jam
tomba in khana sem de mai ba ja to ba temba ala ra
na samlo test tongro a
samlo dan ma mare
test ta chi yore ro di pena da bana ba ji di test e nam tok me ka yo me na de ka as de nata
jina tembo cha ra nam do khaya me wa na ta de shine kyam ba shi ro re la ra
Je, ina
sem salegan la
test tartu. Tartu test tartu roda. Da. Ta demba don tartu, demba don demba don tartu.
Jena tartu si ya mare, so chamba zen te sem de la dabo ge fan de ba. Sem de ya ma chuma chin dabo ge fan de.
Dabo ge, da so.
Sem de dabo ge ba. Ena zo de wa chi. Che de tu ge na.
Si.
Che de tu ge na ba. So chamba yen san la pa tu sha ra. In a chamba mayam was your ra.
Ah,
in a set to give some devil, Marco.
Ra.
Wrong. Oh, let's go. Because the same as I answer, la potu shara, then it?
Jay.
Mare.
Ra. Oh, did I buy the
chambas and other?
Ah. Oh, lasso.
Send the mayam by chasing the ra.
Send my mayam.
Oh, thank.
Test goes on. Test. Ina tarche.
Ina zo dina lamga na ro de temba na boge na.
Zi goes on. Goes on ro. Ina.
En sana gelu ro.
Zi goes on ina.
Chom jara.
Zi. Ina gom la pena. Dema na margin la test tarche go ro ati. Ina tarche kanyan mena tempo. Sem kawala jagre ati. Tawana la jagwa.
Tazo tia de la tia gom. Tia gom le ga.
De chegom digila tes jarwa.
Tel jogom de hande ta chegom yu kong pe kare.
Gozo.
Jogom dande de kap de jogom shero ena ena sem de mayen ba chamba ya bot kore ela ra. Ma to ena de la ta se jena de nam ton de gulu ro sama.
Ora. Voilà. Maintenant, la méditation. On est là ou pas? Oui, la méditation. On rappelle que la méditation, c'est clair lumière sans saisie. Claire lumière libre de toute saisie. Et donc, mais attention, parce que il y a le risque quand même de partir dans un genre d'immobilité, de tranquillité, certes, mais en quelque sorte, entre gros guillemets, passive. Passive. Donc ça, c'est un danger. C'est un gros danger. Quand on se place là, l'esprit concentré en un seul point, sur une seule chose, pense à rien. Il opère, certes, on n'est pas en train de dormir, hein, mais il ne pense à rien. Concentré en un seul point. Eh bien, une minute peut passer, puis avec un peu d'entraînement, 10 minutes peuvent passer comme ça. Avec un peu d'entraînement, 1 heure peut passer. Avec un peu d'entraînement, une demi-journée, voire une journée. peut passer. Si cette heure ou cette demi-journée passe entre gros guillemets, encore une fois, sans qu'on en soit conscient, c'est-à-dire on ne se rend pas compte, en quelque sorte, qu'il y ait tout ça de temps qui a passé, ça c'est le signe. C'est le signe que il y a pas de clarté, il y a pas cette sagesse primordiale n'est pas présente, n'est-ce pas? Et donc on peut méditer autant qu'on veut comme ça, c'est très agréable. Hein, on peut méditer des jours, même après avec un peu d'entraînement, on peut rester plusieurs jours comme ça, l'esprit concentré en un seul point, sans dévier, sans absolument aucune distraction, pas de problème. Mais ça ne nous fera pas sortir du samsara. C'est pas ça qui nous extrait du cycle d'existence conditionnée. Il faut que cette sagesse primordiale, cette connaissance de ce qu'est l'esprit lui-même, qu'on a évoqué tout à l'heure, avant toutes les proliférations discursives, avant les notions, avant les préconcepts, donc cette sagesse primordiale puisse naître, se manifester dans l'esprit sans torpeur, sans agitation. Et pour maintenir cette sagesse en quelque sorte, une fois qu'elle est née dans l'esprit, elle était là, mais elle s'est dévoilée. La maintenir sans torpeur ni agitation, il faut le rappel. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans l'esprit, il faut le rappel. Et c'est ce rappel qui maintient cette vivacité, qui fait que on ne reste pas dans une genre de torpeur pendant une heure, deux heures, trois heures, une demi-journée. Et donc là, faut le rappel. Faut le rappel. Alors moi, c'était ma question était simple. Quelle est la différence entre le rappel et la pensée discursive? Eh bien, la pensée, c'est que... Gavola commence, c'est-à-dire la pensée, c'est quelque chose qui prolifère. Une pensée en amène une deuxième. Oui, mais même une pensée, si on reste concentré sur une seule pensée, est-ce que il y a une différence avec le rappel ou pas? Il dit, ben oui, parce que le rappel, c'est pas une pensée. Une pensée, c'est quelque chose qui est déjà formé. Mais le rappel, c'est pas là, c'est pas ça. Il en est pas là en quelque sorte. Le rappel, c'est juste. Alors c'est très mal traduit, hein, je viens de me rendre compte, c'est pas histoire de rappel, c'est plutôt faire attention. C'est ça, être attentif. Voilà. Et là ça marche, parce que quand on dit rappel, on se rappelle de quelque chose. Donc c'est mal traduit. Hein, mais... Donc ouais, être plutôt... Parce que c'est comme la voiture, l'exemple de la voiture. On est dans la voiture et on se concentre, on avance et on va pas... penser qu'il faut regarder la route. Si on voit quelque chose d'intéressant sur le côté de la route, la voiture elle avance, on va tout de suite regarder à nouveau la route, mais sans forcément penser, sans qu'il y ait une fabrication mentale qui vienne, et au fait il faut que tu regardes sur la route. C'est plus fin que ça. Et c'est ça le rappel. C'est un peu, c'est une attention, être attentif. D'accord, c'est pas une pensée qui dit « regarde sur la route, regarde sur la route » à chaque fois. Non, on regarde sur la route quasi automatiquement en quelque sorte. Et ce quasi automatisme est propulsé et opéré par ce qu'on appelle jhampa, qu'on traduit des fois par rappel. Ok, le fait d'être attentif. Donc c'est pas une pensée d'être attentif. Par exemple, je disais oui, mais par exemple dans les quatre placements rapprochés de l'attention, il y a une certaine analyse même fine qui se fait. Et là, on se pose. Et donc, le rappel, est-ce que ce n'est pas cette analyse fine qui se fait, une ou deux pensées, qui fait qu'on se rappelle de l'objet de concentration? Elle dit, non, ça, ce n'est pas ça. Deux choses différentes. Il y a les pensées, donc ça, c'est l'examen. Et le rappel fait que tu ne sors pas, ne te distrais pas de l'objet de concentration. C'est le fait d'être maître de son esprit. Darkpo, le propriétaire littéralement de son esprit, donc le fait d'être attentif, c'est ça, c'est le rappel. Par exemple, quand on coupe des légumes, si on ne fait pas attention, si on n'a pas ce rappel, ce jhampa, on va se couper. Donc il faut le rappel quand on coupe des légumes, pour ne pas se couper les doigts. Mais pour autant, quand on coupe les légumes, on a tous l'expérience, on n'est pas en train de se dire ne pense pas à autre chose que couper les légumes. Coupe les légumes, fais attention à tes doigts. Non, c'est automatiquement. Sans penser, on fait attention. Comprends ou pas? C'est ça. C'est ça le rappel. C'est ça. Je ne suis pas prêt de l'exprimer mieux. Hein. Pas... C'est... Sans penser, on fait attention. On ne se coupe pas les doigts. On coupe les légumes. Et Jemba, c'est ça. Jemba, c'est ça. Et donc, il faut ce rappel. Si on n'a pas ce rappel dans la méditation, on risque de très bien méditer pendant une heure, deux heures, trois heures, sans voir le temps passer. Et ça, ça ne nous libère pas du samsara, encore une fois. Ensuite, le comportement. Donc, on se rappelle que le comportement était l'absence d'attachement. On se comporte sans attachement, sans être attaché, sans suivre, sans être attaché à quoi que ce soit qui apparaissent. Et le comportement risque, il y a de grands risques de devenir n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Et donc, on pense qu'on apporte le comportement, on adopte le comportement des mantras secrets, des tantrikas, En faisant ce qu'on veut, en écoutant de la musique, en parlant, bavardant avec les gens, en sortant, boire des cafés, en buvant de l'alcool, en mangeant de la viande, en couchant avec tout le monde, en dansant, en chantant et tout ça. Alors on est libre, voilà, c'est des mantras secrets. Et là, bon, on se fourvoie complètement, évidemment. Et donc ça, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Donc là, on chute, en fait, dans une incompréhension totale. Et il dit que tant que on ne maintient pas constamment à l'esprit la vue et la méditation, simplement tant qu'on n'est pas continuellement en méditation, alors on peut pas, il n'y a pas de comportement. Il n'y a pas de comportement des mantras secrets dès lors que la vue et la méditation ne sont pas posées dans l'esprit continuellement, constamment. Et donc ça, c'est le signe, ça c'est l'aide. On a dit les outils, hein. L'outil c'est la vue, certes, mais la méditation également. Et donc, c'est ce qui aide le comportement, ce sans quoi le comportement n'est qu'un comportement ordinaire, et absolument pas un comportement d'un pratiquant. Donc, le comportement est un comportement de pratiquant, c'est la présence de la vue et de la méditation dans l'esprit. Voilà. Sinon, même dans l'autre sens, même si on se met tout seul en ermitage, dans la montagne, etc., on aura toujours des considérations mondaines. On sera toujours dans les 8 dharmas mondains. J'apprécie, j'apprécie pas. J'aime pas. Ça m'aide pas. Tout ça. Et donc, c'est très important. Alors, je demandais le terme tuljuk. Tuljuk, c'est faire n'importe quoi. En l'occurrence, c'est faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi et penser qu'on est dans le comportement d'un tantrika ou d'un adepte des mantras secrets. Et donc, voilà, c'est manger de la viande, danser, chanter, s'amuser, jouer, quoi. Tout ça, c'est ça, tout le jouk, le comportement. On a délaissé le comportement droit pour rentrer dans toutes sortes de comportements mondains. C'est également vrai pour l'inverse. Par exemple, pour un moine, à parfait renonçant, il a ce tuljuk, à l'inverse. C'est-à-dire qu'il délaisse les comportements mondains, ordinaires, séculiers, pour entrer dans le comportement monastique, pour adopter les règles. Donc là, en l'occurrence, pour nous, c'est l'inverse. Et donc, tant qu'on n'a pas posé la vue et la méditation dans l'esprit, on est dans les 8 dharmas mondains. On n'a pas délaissé l'attachement. Attachement. Donc on se couvre de voile, en quelque sorte. Et donc les 8 dharmas mondains, c'est apprécier ce qui est agréable et vouloir rejeter ce qui est désagréable, rechercher le gain et vouloir éliminer la perte, la renommée, les louanges et vouloir éliminer la critique, l'opprobre, etc. En tout cas, c'est aimer ou ne pas aimer, hein. C'est apprécier ou ne pas apprécier, en gros. Et donc ça, c'est de l'attachement. Et dès lors que le comportement est guidé par ce genre de sentiment, on est dans les voiles, on n'est pas dans le vrai comportement sans attachement.
Tā dhribu dhrimi chirbu dhe, tā ngondi gina tādila kharchika zhāng chame nāza sōngyānda āsā chamar zimbā. Tā dhī dhindrī shā, dhī dhī shā, sūsukī chanchīngi, āni nāza sō chāna, āni āni dhrimi chirbu dhe mēbā chātu pārē lā rā, tā nā rūki dhindrī rā. Nā dhīla kharchika zhāng chūlua dhī nāng nāng shīgō rē, sā rāngi sāmgī nāng kī chūlua rā, tā kharī nā tā chīk.
Ina gondarwa, ina Nyamlen Kashinan là dit Ngeduptor Sam Ngeduptor son Samgore wa dit Mikpa Mikpa Samgore ani dit Yidam gi Ngargiel dao ani dit Kale Pentoriore
Kale Bambo de sa Sam Jaya ki de Lobjongje ro
ni Lobjongje ro
moni konande de de Samna ko yimel es ko tobgo mon ga Sam
pene chana na kare jene Samgore
pene chana ga ala le son Samna kya chang le yimara
Denzo Karejene Samgore rwa.
Denzo Samde Jangya rwa, Jangya, Lobjongje Jangya la.
Jangya?
Pena nga kya ala, Alepson nga dogodu Samde na, tani ngima chi rwa jirgi rwa.
Denzo, ah, preparation dao, Chalzi dao.
Dogo masamna, ani kya laya khura ya ma.
Ah.
Ode wa tambo di Jongwa wa Samna. Pena zi Lumba chila dogo Samna.
Samgore.
O, ta de dede do, Lumba dede dogodu, ta Samna. Ani kya lagi rwa masu, zana masamna lagi ma rwa.
Ah, là, ça, là, ça. Ensuite, le fruit, hein, maintenant. On se rappelle, le fruit, vous suivez, le fruit, c'était quoi? Hein? Nu, immaculé. Immaculé et nu. À peu près, quoi, genre, sans souillure. Et ça, c'est le fruit. Alors, ça, c'est un peu intéressant, parce qu'il y a tsenni. Il risque d'être dans les tsenni. Alors, on peut traduire tsenni par... les caractéristiques ou les propriétés ou la définition, indifféremment. Donc le fruit risque en quelque sorte de se vêtir d'une définition ou de se perdre dans les caractéristiques ou de s'éloigner dans des propriétés qu'on lui attribuerait. Comprends ? C'est ça l'idée. Tsenni. Donc ça c'est un risque. C'est un danger. Parce que le fruit qui est le mode d'être ultime, le véritable mode d'être absolu, ultime, est libre de tout ça, justement. Il est libre de toute caractérisation, définition, hein, de toute appropriation, en quelque sorte, discursive. Il est libre de toute illusion, de toute distorsion, que l'esprit pourrait lui attribuer pour l'appréhender. Il est libre tout simplement hein, de toute pensée, quoi. Toute pensée. Et donc ça, c'est un risque. Et tant que les illusions ne sont pas détruites, tant que les pensées ne sont pas éliminées, de penser atteindre la bouddhéité ne donne aucun résultat. D'aspirer même à atteindre la bouddhéité, c'est pas ce qui fait atteindre la bouddhéité. Hein. C'est pas le vœu, aussi pieux soit-il, d'atteindre la bouddhéité, qui produit la bouddhéité, on est d'accord. Et donc, il faut faire la distinction à ce moment-là. Faire la distinction. Entre ce que l'esprit pense, ou ce qu'il sent, c'est pareil, et le véritable fruit. Parce qu'on peut sentir toutes sortes de choses, hein. On peut sentir la vacuité, on peut penser qu'on a atteint tel ou tel niveau sur la voie, on peut penser qu'il y a des manifestations qui se produisent, on peut penser qu'on a des visions, on peut penser toutes sortes de choses. On peut penser que nos expériences sont valides et donc qu'on accroît les réalisations. Ça, c'est des pensées ou des sensations, on sent que. Mais c'est pas ça qui fait atteindre la bouddhéité. C'est pas des sensations ni des pensées, d'accord ? Donc, faut bien faire la part des choses. Faire la part entre l'illusion, ce qui recouvre l'esprit, hein, on a dit hein, les vêtements comme ça, ce qui recouvre donc les pensées, et le fruit lui-même. Le fruit, tout simplement, c'est lorsque toutes les pensées sont détruites, toutes les considérations sont éliminées. Il est nu, on a dit. Voilà. Et donc, je demandais, pardon, encore une fois, une petite question, désolé, aujourd'hui c'est... et des fois, dans les pratiques, on dit, imaginez que vous atteignez les accomplissements. Ou imaginez que vous êtes la divinité. Imaginez, visualisez en quelque sorte. Mikpa, c'est considérer que. Donc vous êtes la divinité, vous atteignez les accomplissements de telle divinité. Vous atteignez la bouddhéité, des fois dans certaines pratiques. Okay. Il disait, alors pourquoi? Pourquoi c'est marqué dans la pratique? Si, évidemment, ce n'est pas la pensée d'atteindre le niveau de la divinité ou d'atteindre ses accomplissements qui va nous faire atteindre les accomplissements de la divinité. Donc pourquoi? Donc voilà, dit, c'est pour s'entraîner, pour entraîner l'esprit. Pour entraîner l'esprit, c'est évidemment parce que c'est pas en pensant je suis arrivé en Inde qu'on est arrivé en Inde. D'accord ? Évidemment, c'est pas en pensant je suis la divinité, en développant on dit la fierté hein, de la divinité, qu'on est la divinité. Alors je me demandais, mais alors pourquoi c'est là ? À quoi ça sert ? C'est pour entraîner l'esprit. Parce que, certes, c'est pas le fait de penser je suis en Inde ou je vais arriver en Inde qui fait arriver en Inde. Mais si on ne pense pas « je vais arriver en Inde », on n'arrivera jamais en Inde. Donc il faut penser d'abord. Ce qui nous fait arriver en Inde, c'est d'abord la pensée. On s'organise et on prépare le voyage. Ça, c'est des pensées. Ce n'est pas arriver en Inde. Ce n'est pas le fait d'être arrivé en Inde, certes, on en est encore loin. Mais sans ça, on ne peut pas y arriver. Donc il faut se préparer. Donc on entraîne l'esprit en quelque sorte, en se prenant pour la divinité, ou en pensant qu'on a atteint les accomplissements. On entraîne l'esprit.
Chesumbe soba kuna ngeshe jin gato irang ba gyurdo changuri koro osan padike ne padena da ta konzo tara chumba chang gen pon na ta konzo be soba ma bu chero a ko zo ma pe ha jang ga wo jung song sen a ne de konzo sang ma ta ta ba ma che be ko na pe ngeshe shu chim ba ge wa re es ta ne ba changuri ko de ta zo re
Bon voilà, ça c'est la fin, le dernier quatrain du chant de Milarepa, le dernier couplet. Donc il chante, on se rappelle qu'il y avait une assemblée de tous ses disciples proches qui fêtaient en quelque sorte la venue de Rinchenpa. Et à la fin de ce chant, une compréhension qu'on a qualifiée tout à l'heure de décisive, de violente, de définitive, une certitude naît dans l'esprit de tous les disciples, de ceux qui sont présents. Et chacun est extrêmement réjoui d'arriver à cette réalisation aboutie, cette compréhension définitive, décisive. Et donc, voilà, c'est ce qui clôt cet épisode, ce chapitre.